Docteur Trampelholmen, Dieu est un guerrier, session 4. Phase 3, Dieu sauve Israël de ses oppresseurs, phase 4, Jésus intensifie et intensifie le combat spirituel. Phase 5, Jésus revient pour gagner la bataille contre les ennemis humains et spirituels. Symbole copyright 2024 Trampelholmen et Ted Rill de Brent. C'est le docteur Trampelholmen dans son enseignement sur Dieu en tant que guerrier. Il s'agit de la séance 4, phase 3, Dieu sauve Israël de ses oppresseurs, phase 4, Jésus intensifie et intensifie le combat spirituel, phase 5, Jésus revient pour gagner la bataille contre les ennemis humains et spirituels. Nous avons donc examiné les deux premières phases, ces moments où Dieu vient comme un guerrier pour lutter contre les ennemis de chair et de sang d'Israël. C'est la phase 1, la phase 2, et elle chevauche, remarquez chronologiquement, la phase 2, qui est Dieu combat Israël. Ce ne sont donc pas des phases séquentielles, c'est davantage déterminé par l'obéissance ou le manque d'obéissance d'Israël à Dieu. Mais il est vrai que, alors que nous avons terminé la phase 2, avec la description du jugement de Dieu contre Israël qui s'est manifesté dans la défaite babylonienne de Jérusalem en exil, la phase 3 est séquentielle à cela. Et quand je parle de la phase 3, et rappelez-vous que c'est juste une façon d'organiser le matériel tel que je le vois, cela fait référence à ces prophètes vers la fin de la période de l'Ancien Testament, pendant l'exil et la période post-exilique. Qui comprennent parce que Dieu leur a révélé que la destruction de Jérusalem, l'exil n'est pas la fin de l'histoire, parce que Dieu leur donne des visions de son retour en tant que guerrier divin pour sauver son peuple de ses oppresseurs. Et rappelons-nous que les Babyloniens, après que les Perses eurent vaincu les Babyloniens en 539 a venu dans un autre sens, le jugement continue parce que les Perses sont désormais les seigneurs de Juda. Et puis, lorsque les Grecs ont vaincu les Perses sous Alexandre le Grand, ils étaient désormais sous la coupe oppressive des Grecs. Après la mort d'Alexandre et le partage de son vaste empire entre ses généraux, il y eut des allers-retours entre les Ptolémées et l'Égypte et les Séleucides en Syrie. Et puis, lorsque les Romains sont entrés en scène au 1er siècle avant J.C., ils étaient désormais sous la présence oppressante de l'occupation romaine. Et bien sûr, cela nous amène à l'époque du Nouveau Testament. Mais revenons maintenant aux prophètes comme Daniel, Zacharie, Malachie et d'autres, mais je vais utiliser ces trois-là comme exemple, ils présentent des visions que Dieu leur a données et qu'il allait revenir et les sauver de leurs oppresseurs. Alors laissez-moi commencer par Daniel. Daniel se déroule au 6e siècle avant J.C., et bien que, vous le savez, il ait été emmené en exil à Babylone très tôt, avant même le moment où Nabuchodonosor décide de détruire le temple et de subir un exil plus important. Mais Daniel vit à Babylone pendant la majeure partie de sa vie, ce qui semble être une très longue vie. Et Dieu lui donne des visions. Maintenant, Daniel est un livre intéressant car il comporte deux parties principales. Les six premiers chapitres sont des récits de Daniel et de ses trois amis vivant à la cour babylonienne ou perse. Les six deuxièmes chapitres sont destinés aux visions apocalyptiques, aux visions du futur. Et je vais me concentrer sur le premier de ces quatre, Daniel 7, probablement le plus connu, mais il illustre bien ce dont je parle ici. Tout d'abord, je dirais que les six histoires et les quatre visions apocalyptiques transmettent le même message fondamental à leur public, malgré ce à quoi cela ressemble, le mal est aux commandes. La réalité est que Dieu est aux commandes et qu'il remportera la victoire finale. Alors vivez dans la foi, ne paniquez pas et ne pensez pas que le mal remportera la victoire ultime. Un message qui peut résonner chez nous aujourd'hui. Mais regardons comment Daniel 7 présente ce thème et comment il anticipe également la venue du guerrier. Ainsi, Daniel 7 peut être divisé en deux parties, les versets 1 à 14 sont une description de la vision qu'a Daniel. Et puis Daniel 7.15 et suivants sont une interprétation angélique de cette vision. Donc, je vais lire le premier, je suppose qu'il fait 14 versets, et incorporer l'interprétation dans la lecture ici. Ainsi commence, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions qui lui traversèrent l'esprit. Alors qu'il était au lit, il écrivit la substance de son rêve. Sans entrer dans la discussion technique sur la relation entre Belshazzar et un type nommé Nabopolassar, qui était son père et qui était également co-roi avec Belshazzar à l'époque, je dirais simplement que nous sommes ici vers la fin de l'Empire babylonien. Et il s'en va, dit Daniel, dans ma vision nocturne, j'ai regardé et là devant moi étaient les quatre vents du ciel agitant la grande mer, quatre grandes bêtes, chacune différente des autres, sortaient de la mer. D'accord, une grande partie de Daniel 7 va sembler vraiment étrange à beaucoup d'entre nous qui vivons dans l'Occident du XXIe siècle. mais je vais vous dire que c'est vraiment lié à l'imagerie ancienne et assez connue du Proche-Orient. Et dans ce cas, l'idée que la mer représente le chaos, voire le mal. Et ainsi, la vision commence par la scène d'une mer très chaotique avec quatre bêtes qui en émergent. Et comme ils sortent de la mer, on peut les appeler des bêtes marines. Et les bêtes marines sont également communément considérées comme des forces anti-création. Il est dit que le premier était semblable à un lion et qu'il avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'à ce que ses ailes soient arrachées et qu'il soit soulevé du sol pour qu'il se tienne sur deux pieds comme un être humain. Et l'esprit d'un humain lui a été donné. Et là, devant moi, il y avait une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Il était relevé sur un de ses côtés, avait trois côtes dans la bouche entre les dents et on lui disait de se lever et de manger à sa faim. Après cela, j'ai regardé devant moi une autre bête, qui ressemblait à un léopard. Et sur le dos, il avait quatre ailes comme celles d'un oiseau. Cette bête avait quatre têtes. On lui a donné le pouvoir de gouverner. Eh bien, avant d'en arriver à la quatrième bête, permettez-moi de faire quelques commentaires ici, l'interprète angélique nous dira plus tard que ces bêtes représentent des royaumes humains maléfiques. C'est pourquoi beaucoup de gens passent du temps à essayer d'identifier les royaumes spécifiques. Une école de pensée plus traditionnelle, dit que les premières bêtes sont les Romains. Et puis, deuxièmement, ce sont les Médo-Perses, puis les Grecs, et enfin l'Empire romain. Et une autre école de pensée dit, non, ce sont les Romains, puis les Mèdes, puis les Perses, puis les Grecs. Et mon propre point de vue est que je ne pense pas que nous devions faire ce genre d'identification spécifique. Mais le plus important, c'est qu'une nation après l'autre se soulèvera et opprimera le peuple de Dieu. Nous n'allons donc pas nous attarder sur l'identification du royaume en particulier. Donc, même si l'un des deux a raison, et si l'un d'eux a raison, je préfère en quelque sorte le point de vue le plus traditionnel. Mais ce n'est vraiment pas important au point que j'essaie de faire valoir. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que ces images montrent à quel point ces nations sont terrifiantes, impitoyables, cruelles et dangereuses pour le peuple de Dieu. D'une part, vous devez réaliser que, vous savez, les Hébreux étaient vraiment repoussés par les hybrides. La première bête est un hybride, décrit comme un lion avec des ailes d'aigle qui se transforme en être humain. Le second n'est pas un hybride, mais sa cruauté se voit dans le fait qu'il se dresse sur un côté et mange trois côtes. Et puis le léopard qui a quatre ailes comme un oiseau, c'est aussi un, ce que les Allemands appellent un Mischwesen ou une essence mixte. Et encore une fois, terrifiant, repoussant. Et cela met en lumière la nature de ces royaumes qui oppriment le peuple de Dieu. Mais le point culminant se situe sur la quatrième bête. Il est dit qu'après cela, dans ma vision nocturne, j'ai regardé, et là, devant moi, il y avait une quatrième bête, terrifiante et effrayante et très puissante. Il avait de grandes dents de fer, il écrasait et dévorait ses victimes et piétinait ce qui restait. C'était différent de toutes les bêtes précédentes et il avait 10 cornes. D'accord, donc ce que je dis souvent, c'est que j'appelle souvent cette bête robot Bess, même si bien sûr, il n'avait pas de concept de robot à l'époque. Mais la seule description physique que nous obtenons est celle de dents en fer. Et puis plus tard, l'interprète angélique fera référence aux clous de fer de cette bête particulière. Mais cette bête est tellement surnaturelle qu'elle n'est même pas connectée à un animal organique ordinaire. Et c'est terrifiant. Et il a 10 cornes. Désormais, les cornes sont un symbole de pouvoir. Et bien sûr, le chiffre 10 est un chiffre symbolique, il dit qu'il s'agit d'une bête extrêmement puissante qui représente dans l'imagerie une nation extrêmement puissante. Puis il est dit que, pendant que je pensais aux cornes, il y avait devant moi une autre corne, une petite, qui montait parmi elles. Et trois des premières cornes furent arrachées avant lui. Cette corne avait des yeux semblables à ceux d'un être humain dans une bouche qui parlait avec vantardise. Ainsi, l'accent final est mis sur une corne qui représente probablement une personne politique et puissante. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails de leur identification. Mais à ce stade, je parle simplement de la façon dont, dans la première partie de la vision, nous sommes justes, ce que nous obtenons est une description de bêtes qui représentent des puissances humaines maléfiques qui oppriment le peuple de Dieu, tout comme le peuple de Dieu à l'époque de Daniel sont opprimés, d'abord par les Babyloniens, puis par les Perses. La seconde moitié de la vision change de scène. Et nous n'entendons plus parler de bêtes qui représentent des êtres humains maléfiques, mais plutôt d'êtres humains qui représentent le royaume divin. Et c'est un passage assez étonnant, surtout si l'on considère son contexte dans l'Ancien Testament, où il n'y a pas beaucoup d'enseignements explicites sur la nature trinitaire de Dieu. Nous avons des aperçus que nous pouvons reconnaître lorsque nous le lisons dans la perspective du Nouveau Testament. Mais c'est fascinant et souvent repris dans le Nouveau Testament comme pointant vers le Christ. Il est dit, « Pendant que je regardais, des trônes furent mis en place et l'Ancien des Jours prit place. Ses vêtements étaient blancs comme neige. Les cheveux de sa tête étaient blancs comme de la laine. Son trône était en feu et ses roues étaient toutes en feu. Une rivière de feu coulait devant lui. Des milliers et des milliers de personnes l'ont assisté. 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Le siège était assis et les livres étaient ouverts. » D'accord. Ancien des jours, ce qui est une manière très profonde et digne de dire un personnage très ancien, mais pas vieux et décrépit, mais vieux et puissant, assis sur son trône, prêt à rendre son jugement. Cela représente sûrement Dieu, qui est assisté par des myriades d'êtres spirituels. Maintenant, au verset 13, nous lisons, « Alors j'ai continué à veiller, à cause des paroles vantardes que prononçait le corps. J'ai continué à regarder jusqu'à ce que la bête soit tuée et que son corps soit détruit et jeté dans le feu ardent. Les autres bêtes avaient été déchues de leur autorité mais étaient autorisées à vivre pendant un certain temps. Dans ma vision nocturne, j'ai regardé, et là, devant moi, il y avait quelqu'un comme un fils de l'homme, venant avec les nuées du ciel. Il s'approcha de l'Ancien des jours, fut conduit en sa présence et reçut l'autorité, la gloire et le pouvoir souverain. Toutes les nations et tous les peuples de toute langue l'adoraient. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. » D'accord, c'est vraiment excitant et dramatique, et plutôt inattendu dans ce contexte de l'Ancien Testament, que quelqu'un, comme un fils de l'homme, entre en présence de l'Ancien des jours chevauchant un nuage. Maintenant, déjà à l'époque de Daniel, dans des écritures antérieures, nous avons des images de Yahweh chevauchant un nuage. Qu'il s'agisse du psaume 68, du psaume 104, du chapitre 1 de Néhémie ou d'Ésaïe 19, nous pourrions continuer encore et encore. Et avant cela, dans d'autres contextes anciens du Proche-Orient, les dieux, même un dieu comme Béol, qui est un dieu de la tempête, sont représentés comme un cavalier du nuage. Ce que je veux dire ici, c'est qu'un cavalier de nuage est une figure divine, et celle-ci est appelée une figure semblable au Fils de l'homme. Or, dans son contexte de l'Ancien Testament, l'expression « Fils de l'homme » signifie simplement un être humain. Lisez le livre d'Ézéchiel et vous verrez que Dieu fera fréquemment référence à Ézéchiel comme au Fils de l'homme, à un être humain. Mais ce n'est pas le Fils de l'homme chevauchant, c'est comme un Fils de l'homme chevauchant un nuage. Donc, dans un sens, vous pourriez comprendre ce que je veux dire en disant que vous semblez avoir une certaine délimitation de ce que nous appelons ici les personnes de la Trinité. Et comme nous le commenterons plus tard, le Nouveau Testament reconnaît certainement cela comme une anticipation du Christ, car Daniel 7, 13 à 14 est probablement cité ou évoqué une demi-douzaine de fois dans les Évangiles et dans le livre de l'Apocalypse. Donc, en fin de compte, cette image que nous obtenons dans le chapitre 7 de Daniel décrit ce que j'appelle la phase 3. C'est la vision de Dieu qui viendra dans le futur, et il vous délivrera de vos oppresseurs. Celui qui ressemble au Fils de l'homme, à la demande de l'Ancien des jours, ira combattre ses royaumes pour sauver son peuple. Ainsi, cette vision est de donner de l'espoir aux personnes vivant sous l'oppression et de les encourager à continuer à vivre dans la foi même s'ils vivent dans un environnement oppressant. Maintenant, je ne vais pas m'étendre aussi longtemps, mais je veux juste attirer votre attention sur quelques autres passages où nous recevons un message similaire comme Zacharie chapitre 14, le dernier chapitre de Zacharie, un prophète post-exilique. Il dit qu'un jour du Seigneur arrive. Et cette expression « jour du Seigneur » fait référence à un jour futur de guerre de Dieu ou à son jugement à venir. Un jour du Seigneur vient, Jérusalem, où tes biens seront pillés et partagés à l'intérieur de tes murs. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour lutter contre cela. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en exil, mais le reste de la population ne sera pas retiré de la ville. Alors le Seigneur sortira et combattra ses nations comme il combat un jour de bataille. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers à l'est de Jérusalem, et le mont des Oliviers sera divisé en deux d'étang ouest, formant une grande vallée, avec la moitié de la montagne se dirigeant vers le nord et l'autre vers le sud. Vous fuirez par ma vallée de montagne, car elle s'étend jusqu'à Ézel. Vous fuirez comme vous avez fui le tremblement de terre du temps d'Ozia, roi de Juda. Alors le Seigneur mon Dieu viendra et tous les saints avec lui. Or, cette référence au saint est une référence à cette armée angélique dont nous avons parlé plus tôt. Ce jour-là, il n'y aura ni soleil ni obscurité glaciale. Ce sera un jour unique, un jour connu uniquement du Seigneur, sans distinction entre le jour et la nuit. Le soir venu, il y aura de la lumière. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem, pour moitié vers la mer Morte et pour moitié vers la mer Méditerranée, été comme hiver. Et ce sera le cas, continue la description de la bataille, en passant au verset 12. C'est le fléau avec lequel l'Éternel frappera toutes les nations qui ont combattu contre Jérusalem. Leur chair pourrira alors qu'ils seront encore debout. Leurs yeux pourriront dans leurs orbites. Leurs langues pourriront dans leur bouche. Ce jour-là, les gens seront frappés par le Seigneur d'une grande panique. Ils se saisiront par la main et s'attaqueront. Juda aussi combattra à Jérusalem. Les richesses de toutes les nations environnantes seront rassemblées. De grandes quantités d'or, d'argent et de vêtements. Un fléau similaire frappera les chevaux et les mulets, les chameaux et les ânes, et tous les animaux de ces camps. Donc, encore une fois, je ne lirai pas tout le chapitre, mais nous recevons un message similaire à celui que nous avons vu dans Daniel 7, à savoir qu'en ce moment vous vivez dans une situation d'oppression, mais à l'avenir, Dieu va venir en guerrier, et il va vous sauver de l'oppression. Le dernier exemple sera tiré du chapitre 4 de Malachie, un autre prophète post-exilique, dans un court chapitre, dit « Le jour vient sûrement. Il brûlera comme une fournaise. Tous les arrogants et tous les méchants seront du chaume, et le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il ne leur restera ni racine ni branche, mais pour vous qui révérez mon nom, le Fils de la justice se lèvera avec la guérison dans ses rayons, et vous sortirez et vous amuserez comme des veaux bien nourris. Alors vous piétinerez les méchants. Ils seront cendres sous la plante de vos pieds le jour où j'agirai, dit le Seigneur Tout-Puissant. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, des décrets et des lois que je lui ai donnés à Horeb pour tout Israël. Voyez, je vous enverrai le prophète Élie avant que ce grand et redoutable jour du Seigneur vienne. Cela ramènera le cœur des parents vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs parents, sinon je viendrai et frapperai le pays d'une destruction totale. Ainsi, encore et encore, nous entendons chez ces prophètes exiliques et post-exiliques la vision de Yahvé le guerrier revenant pour les sauver. Et cette vision résonne tout au long de la période dite intertestamentaire, ou la période entre les Testaments et les autres littératures juives. Nous tournons maintenant la page vers le Nouveau Testament et ce que je décrirai comme la phase 4, celle où Jésus intensifie et intensifie la bataille afin qu'elle soit dirigée vers les pouvoirs et l'autorité spirituelle. Mais commençons par Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3. Comme vous le savez, Jean-Baptiste part dans le désert près du Jourdain, anticipant l'arrivée du Messie. Et il dit, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et ce que je veux que vous voyiez, c'est ce qu'il dit à propos de celui-ci, en particulier aux pharisiens, aux sadducéens et à d'autres qu'il appelle à se repentir. » Il dit dans Matthieu 3, verset 7, « Je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais après moi vient celui qui est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de porter les sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Sa fourche à vanner est dans sa main, et il nettoiera son aire, rassemblant son blé dans le grenier et brûlant la balle dans un feu qui ne s'éteint pas. Maintenant, je veux que vous voyiez que ce que fait Jean-Baptiste, c'est reprendre le langage et les attentes de Daniel, Zacharie, Malachie et des autres. Celui que je baptiserai rassemblera toute la paille et la brûlera, et il prendra une hache et coupera le bois pourri. Alors, il baptise Jésus, Jean est mis en prison pendant que Jésus commence son ministère, et Jésus, dans son ministère, guérit les malades, vous savez, exerce les démons, prêche la bonne nouvelle, et Jean-Baptiste, comme je l'ai dit, est en prison, et il reçoit des rapports sur ce que fait Jésus, et il se dit, j'ai peut-être baptisé la mauvaise personne. Maintenant, comment puis-je dire ça? Eh bien, dans Matthieu 11, il envoie deux disciples vers Jésus, et ils lui disent, es-tu le seul, ou dois-tu en attendre un autre? Et fondamentalement, derrière cette question, il y a, Jésus, où est la paille qui brûle? Jésus, où est la hache qui coupe? Eh bien, Jésus répond en emmenant Matt faire une petite tournée ministérielle et en faisant encore plus de la même chose, guérissant les malades, exerçant les démons, prêchant la bonne nouvelle, et il dit, retourne en arrière et raconte à Jean ce que tu as vu. Alors, encore une fois, quel message Jésus essaie-t-il d'envoyer à Jean? John, vous avez baptisé la bonne personne, mais j'ai intensifié et intensifié la bataille pour qu'elle soit dirigée vers les pouvoirs et l'autorité spirituelle, et John, il n'articule pas cela, j'assemble cela en me basant sur des passages bibliques ultérieurs que j'ai et je vais maintenant citer, mais John, vous ne pouvez pas vaincre cet ennemi en tuant, cet ennemi est vaincu en mourant. Maintenant, nous reviendrons à la question dans un instant, Jean-Baptiste avait-il tort? La réponse est non, mais je vais vous dire pourquoi il n'avait pas tort. Mais c'est le cas, vous savez, alors que Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémané, Pierre sort son épée et coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre, Jésus lui dit, « Range ton épée. Si je le voulais, je pourrais avoir ici des myriades de l'armée céleste de mon Père, mais mon chemin est vers la croix, et ainsi Jésus va et meurt sur la croisée, bien sûr, est ressuscité et monte au ciel, et n'est pas. » Il est intéressant de noter que Paul utilise occasionnellement un langage militaire pour décrire l'œuvre de Jésus sur la croix, la résurrection et l'ascension. Laissez-moi vous donner deux exemples de ce dont je parle, en commençant par Colossiens chapitre 2, 13 à 15, quand Paul dit, « Lorsque vous étiez morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendu vivant avec Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés, ayant annulé la charge de notre dette légale, qui s'opposait à nous et nous a condamnés, il l'a ôté en la clouant sur la croix. » Maintenant, écoutez très attentivement le verset 15, et après avoir désarmé les pouvoirs et les autorités, il en fit un spectacle public, triomphant d'eux par la croix. Les théologiens appelleront cela le modèle Deus Victor de l'expiation, et il existe d'autres modèles aussi, mais ici, l'œuvre de Jésus sur la croix est décrite comme un triomphe militaire, et le spectacle public est une référence à la pratique pendant cette période par les Romains, qu'après avoir remporté une grande victoire, ils conduisaient les prisonniers dans une sorte de défilé dans les rues, et cette image est utilisée dans une autre lettre paulinienne, à savoir Éphésiens 4. Verset 8, quand Paul dit, en référence à l'ascension, c'est pourquoi il est dit que lorsqu'il monta dans les hauteurs, il fit de nombreux captifs et fit des cadeaux à son peuple. Maintenant, ce qui est particulièrement intéressant à propos d'Éphésiens 4, 8, c'est que Paul cite le psaume 68, vous vous souviendrez peut-être que nous avons parlé des psaumes qui étaient liés à la guerre dans le livre des psaumes, et le psaume 68 est un hymne guerrier divin qui est maintenant appliqué à Jésus. Ainsi, Jésus intensifie et intensifie la bataille, et il est maintenant temps de se poser la question, Jean-Baptiste avait-il tort? Et j'ai déjà dit non, mais laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Jean-Baptiste n'avait pas tort, mais comme beaucoup de prophètes, il parlait mieux qu'il ne le pensait consciemment. Alors qu'il parlait de la venue du Christ, il ne se rendait pas pleinement compte, ni même du tout, que la venue du Christ était une affaire en deux parties, que Jésus ne revenait pas seulement une fois, mais qu'il reviendrait dans le futur. Et ainsi, lorsque nous passons au retour de Jésus dans le futur, nous sommes maintenant dans la phase 5, où Jésus revient afin de gagner la bataille finale contre tout le mal, humain et spirituel. Je vais donc lire quelques passages, un brièvement et un plus longuement. Jésus a parlé de sa seconde venue, et ce qu'il a dit est enregistré dans Matthieu, je veux dire Marc chapitre 13, et aussi dans Matthieu et Luc, mais je voulais lire ceci parce que dans les versets entre 26 et 27, il dit, « À ce moment-là, les gens voyaient le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire, et il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités des cieux. » Vous pouvez entendre cet écho de Daniel 7, entre 13 et 14 là, n'est-ce pas? Il est appelé le Fils de l'homme, ce qui, d'ailleurs, beaucoup de gens qui ne connaissent pas le contexte de l'Ancien Testament pensent que c'est une sorte d'allusion à l'humanité du Christ, où le Fils de Dieu est une allusion à sa divinité, et je sais que ces choses sont débattues, mais d'après ce que je comprends, nous sommes tous fils de Dieu, et donc en fait, cela met probablement l'accent sur son humanité, alors qu'il est le Fils de l'homme, ce qui renvoie à Daniel 7, 13 et 14, mais c'est réellement dans le livre de l'Apocalypse que l'on voit un certain nombre d'images différentes du retour du Christ, parfois chevauchant la nuée, mais un retour où il vient remporter la victoire finale, et j'aimerais attirer votre attention sur Apocalypse 19, 11 et suivant, qui est en quelque sorte une déclaration culminante de son retour. Là, il est dit, j'ai vu le ciel ouvert, et là, devant moi, il y avait un cheval blanc dont le cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Évidemment, il s'agit d'une référence à Jésus sur un cheval. Puis il s'en va, avec justice il juge et fait la guerre. Ses yeux sont comme un feu ardent, et sur sa tête il y a de nombreuses couronnes. Il a un nom écrit sur lui que personne d'autre que lui ne connaît. Il est vêtu d'une robe trempée dans le sang et son nom est la parole de Dieu. Maintenant, ceux qui ont des yeux pour voir peuvent entendre qu'il y a tout un tas de petites citations des psaumes, d'Isaïe et du Deutéronome, et d'Ézéchiel, et ainsi de suite, et dans un contexte tout cela est attribué à Yahweh, qui est le guerrier divin, ils sont maintenant appliqués à Jésus. Par exemple, avec justice, il juge et fait la guerre, une référence au psaume 98, que nous avons lu plus tôt. Ses yeux sont comme un feu ardent, ce qui fait penser à la vision qu'a eu Ézéchiel. Il est vêtu d'une robe trempée de sang, qui fait penser à l'image de Yahweh dans Isaïe 63. Ensuite, il parle des armées du ciel qui le suivent, montées sur des chevaux blancs et vêtues de fin lin, blanc et pur. Une épée tranchante sort de sa bouche pour frapper les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, psaume 2. Il essaie le pressoir de la fureur de la colère de Dieu Tout-Puissant, allusion à Isaïe. Sur sa robe et sur sa cuisse, il a écrit ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange debout au soleil qui criait d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient dans les airs, rassemblez-vous pour le grand repas de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, des généraux et des puissants chevaux. Et leurs cavaliers, et la chair de tous les peuples, libres et esclaves, grands et petits. Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre aux cavaliers et à son armée. Mais la bête fut capturée et avec elle le faux prophète qui avait accompli les signes en sa faveur. Avec ces signes, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans le lac enflammé, brûlant du soufre. Les autres furent tués avec l'épée sortant de la bouche du cavalier sur le cheval, et tous les oiseaux se brûlèrent la chair. Donc voici, comme je l'ai dit, une description des humains méchants, en pensant ici au verset 18, aux rois, aux généraux et aux puissants, puis aussi aux puissances spirituelles avec une référence à la bête et aux faux prophètes qui ont été décrits plus tôt. Dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons donc ici une description de Jésus remportant la victoire finale, ce qui est anticipé par toutes les images de Dieu en tant que guerrier qui figuraient plus tôt dans la Bible. Alors maintenant, nous sommes dans un endroit où nous pouvons réfléchir un peu à cette image de Dieu en tant que guerrier, à la fois d'un point de vue largement théologique et éthique. C'est le docteur Trampé Longman dans son enseignement sur Dieu en tant que guerrier. Il s'agit de la séance 4, phase 3, Dieu sauve Israël de ses oppresseurs, phase 4, Jésus intensifie et intensifie le combat spirituel, phase 5, Jésus revient pour gagner la bataille contre les ennemis humains et spirituels.